Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport en ce dimanche matin, 4 juin. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête, maman. Et passez une très, très belle journée avec elle. On pense à elle, en tout cas. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, vous le savez, c'est de 9h à midi, les grandes gueules du sport. On est là tous les week-ends et en direct avec Christophe Cessieux ce matin, Marie Martineau, Sarah Pitkowski dans quelques secondes. On va parler de Julian Alaphilippe qui fait son grand retour aujourd'hui sur le Dauphiné, croyez-vous, au réveil de notre champion français. 11h30, c'était mieux avant, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux. Il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, c'est demain la date anniversaire, le 5 juin 1983, le sacre de Yannick Noah à Roland-Garros. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Daniel Pénac qui a dit un jour, si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Alaphilippe, il va remporter la Flèche Wallonne, la première classique de sa carrière.
C'est pour toi, Julien. Allez, tu peux lever les bras, tu peux sourire. Champion du monde, Julien Alaphilippe. Oui, le poing serré, les larmes aux yeux de Julien Alaphilippe. Il est à toi, l'arc-en-ciel, Julien.
Congrats, Julien, congrats.
Julien Alaphilippe, le champion du monde, le garçon, le français qui règne actuellement sur le peloton, qui fait signe. Oulalalala, qu'est-ce que j'ai fait encore aujourd'hui?
Julien Alaphilippe, un duel jusqu'au bout, un duel jusqu'au bout, la victoire de Julien Alaphilippe. Quelle victoire de Julien Alaphilippe, extraordinaire, ici, en haut du mur de Huy.
Il s'impose devant Michael Matthews, devant Roglic. Victoire de Julien Alaphilippe à la Fossole.
Champion du monde pour la deuxième année d'affilée, Julien Alaphilippe qui triomphe, c'est l'empereur du vélo.
Comment champion? Hop, hop, hop.
Ça faisait un peu, ça c'était avant, hein. C'était mieux avant, ça c'était Christophe Cessieux et ce sera tout à l'heure. Hein.
Il y a pas longtemps quand même.
À un mois du Tour de France, Julien Alaphilippe est donc de retour à la compétition. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur le critérium du Dauphiné, la nouvelle a été officialisée. Mercredi, le double champion du monde français revient un mois et demi après sa dernière course pour enfin lancer sa saison et sortir de l'anonymat. La musique qui fout les jetons est cette question. Croyez-vous au réveil de Julien Alaphilippe? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Marie Martineau.
Maintenant, oui.
Ok. Sarah Pitkowski.
J'ai pas d'argument pour dire non, mais je suis quand même un petit peu sceptique. En tout cas, j'ai pas d'argument pour dire non.
Mais t'as des arguments pour dire oui?
Pas beaucoup non plus.
Pas beaucoup, ok. Donc tu sais pas.
Bah, je sais pas bien.
T'es pas bien,
en fait,
là.
Ouais.
Ok, je comprends.
Avant de débattre. Mercredi prochain.
Comment?
Tu peux te donner la réponse mercredi prochain quand tu auras fait 4 étapes du Dauphiné?
Jeudi en 8.
Jeudi en 8. Ok.
Ou après les dernières informations, parce que tu vas l'entendre, Julien Alaphilippe, de notre spécialiste vélo,
oui,
Arnaud Souk,
bon,
sur les routes du Dauphiné.
Il est tellement fan de Julien.
Salut Arnaud.
Évidemment, il est pas,
salut les amis.
Il est pas
salut.
Crédible sur un dossier pareil.
Voilà. Ne te laisse pas.
Ça commence bien, ça fait plaisir.
Ne te laisse pas influencer.
Ça fait plaisir de te reparler au mois et demi après.
Ça va, ça va.
Ça va très très bien.
Vous vous appellerez au téléphone, les copains.
Ouais, vous raconterez votre vie ailleurs.
Alors Arnaud, en fin de semaine, tu as retrouvé le champion du monde français, enfin l'ancien champion du monde, vous l'avez bien compris.
Le double champion du monde français.
Dans quel état d'esprit est-il?
C'est un Julien Alaphilippe apaisé, plutôt serein, qu'on a pu interroger hier après quasi un mois et demi sans monter sur le vélo en compétition. Julien Alaphilippe qui avait le sourire, on peut le dire, on l'écoute.
Je me sens bien physiquement, j'ai vraiment envie de courir et c'est bon signe, donc je me sens frais. Et c'est une période importante de la saison qu'il faut aborder avec de la fraîcheur. J'espère que les jambes seront bonnes pour prendre du plaisir et faire de bons résultats cette semaine. Et puis voilà quoi.
Et pour cela, Alaphilippe s'est d'abord reposé après une campagne de classique bien en dessous de ses attentes avant de prendre part à un long stage d'entraînement en altitude en Sierra Nevada, puis de reconnaître le parcours notamment des deux premières étapes espagnoles du Tour de France. Alors, en arrivant sur le Dauphiné, le double champion du monde ne s'interdit rien, y compris de jouer le classement général.
Concernant le classement général, c'est pas qu'il est exclu ou pas, c'est juste que j'y pense pas, ça viendra peut-être au fil de la course. Mes ambitions ici, c'est vraiment de profiter de la course et je serais super content de gagner une étape et j'ai vu qu'il y avait quelques étapes de puncher, je suis super motivé.
Et peut-être motivé pour gagner aujourd'hui à Chambon-sur-Lac, hein, dans le Puy-de-Dôme, même si les ascensions à franchir risquent de manquer un tout petit peu de dénivelé pour faire de grosses différences. Mais Julien Alaphilippe pourrait pourquoi pas avoir son petit mot à dire.
Merci beaucoup Arnaud Souk, tu restes avec nous pour ce débat. Croyez-vous au réveil de Julien Alaphilippe, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio? Pourquoi t'y crois, toi?
Alors, j'y crois. C'est pas encore évident de se prononcer, sachant qu'il a plus couru depuis Liège-Bastogne-Liège, donc c'était il y a un mois et demi.
C'est fin avril.
Et qu'on peut pas dire que son début de saison a été particulièrement florissant et nous a vraiment rassuré avant cette interruption. Maintenant, Codène Bonhomme, c'est un battant. Il a 31 balais. Il reste une valeur sûre du cyclisme français, du cyclisme mondial. Même si j'ai tendance à croire que ses plus belles années sont tout de même derrière lui. Mais à l'écouter, au micro d'Arnaud, à le lire, on sent qu'il a retrouvé de la fraîcheur, on sent qu'il a retrouvé la pêche et du sourire, ce qui n'était pas le cas depuis un an. On le sentait chaque fois qu'on le voyait. Tu vois, on sentait qu'il avait le moral au fond des chaussettes.
T'avais l'impression qu'il y croyait lui.
Même s'il
croyait
essayait
pas non plus
de se convaincre, il avait du mal à nous convaincre. Là, depuis quelques jours, je trouve qu'on retrouve justement le Julien d'avant, dans les intentions et dans l'ambition. Bon, on rappelle quand même cette saison 2022 terrible, ces gamelles à répétition, ce Covid qu'il a pourchassé, les petits tacles par derrière de son manager Patrick Lefebvre. Tout ça lui a pas fait du bien, mais j'ose espérer que c'est derrière nous et que il a retrouvé la hargne. En tout cas, il a refait du jus, il est ambitieux et il sait que les semaines qui viennent sont les plus importantes de sa saison, voire de la suite de sa carrière. Ce Dauphiné, s'il veut briller, le but de sa saison, c'est évidemment de briller durant la première semaine du Tour, d'essayer de récupérer le maillot jaune avec des routes qui lui conviennent parfaitement, les routes du Pays Basque espagnol où il a remporté la Clásica San Sebastián il y a quelques années. C'est des routes pour puncher, donc c'est toutes les qualités de Julien. Mais pour espérer décrocher le maillot jaune et une étape, il faut qu'il soit déjà en forme maintenant, parce qu'on est très proche désormais du Tour de France, donc il est en phase ascendante pour atteindre le pic de forme dans 4 semaines. Et donc on va le savoir là dans les jours qui viennent, aujourd'hui, demain, après-demain, s'il a la hargne, s'il a la jambe pour espérer briller sur le Tour. Okay. Eh bien, ça va jouer là.
Donc ça va jouer là, on va savoir rapidement. Ok, Marie Martineau.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec Christophe sur le fait que ça va se jouer là. Après, je me demande qu'est-ce que tu entends par le réveil. C'est-à-dire, est-ce qu'on attend de lui qu'il soit bon avec lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de chute, qu'il soit aux avant-postes sur les étapes,
qu'il retrouve éventuellement. Il nous a mal habitués.
Non, mais c'est ça. Ou parce que il faut quand même pas oublier que sur ce Tour, sur ce Dauphiné là cette année, il y a grave de beaux monde. Je vais t'en citer quelques-uns. Vingegaard, Gaudu, évidemment, Carapaz, Bernal, Mas, Yates. Il y a du monde, il y a du beau monde. Donc, et il va vraiment. Si on le veut le voir devant, et c'est ça qu'on va appeler un réveil, alors ça va être quand même pas évident. Maintenant, si c'est juste être en forme et le voir bien épanoui avec le sourire qui fait sa life juste en amont du Tour de France.
Un Julien Alaphilippe ne peut pas rester planqué dans le peloton. C'est ça, un réveil.
On va voir.
Parce que depuis un an et demi, alors il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de choses pour l'expliquer. Tu l'as rappelé, les principales en tout cas, mon cher Christophe. Mais depuis quelques mois, on le voyait plus sur une course. Tu voyais plus Julien Alaphilippe. Il attaquait plus. Il était planqué dans le peloton et personne n'a envie de ça.
C'est bien pour ça que je peux difficilement me prononcer. C'est-à-dire que on a quitté un Julien Alaphilippe qui gagnait. On a vu un Julien Alaphilippe qui tombait, qui chutait, qui se blessait. Et vous pensez que parce que il déclare qu'il se sent mieux dans son corps, dans sa tête, qu'il s'est bien entraîné, que de facto les résultats vont arriver, mais on n'a aucune certitude à part croire à sa méthode Coué à lui.
Oui, mais je suis d'accord avec
ça. On n'a aucune référence pour penser qu'il y ait un réveil ou qu'on peut retrouver le Julien Alaphilippe d'il y a 2 ans. Donc c'est très difficile de se prononcer. Aujourd'hui, il y a pas de référence à part ce que lui nous déclare, en fait.
Bah, c'est assez irrationnel. Mais moi, j'ai toujours été dans l'irrationnel avec ce garçon-là.
Mais l'irrationnel, il existe, les années passent.
Il a un charisme particulier.
Tu penses qu'il va avoir besoin de moi ou pas?
Qu'il va avoir besoin de toi, c'est-à-dire?
Oui, Arnaud.
Ah, pardon.
Peut-être
il aura besoin de toi, Arnaud, effectivement, si tu veux le pousser un peu.
Arnaud est aussi en train de parler en régie, ne vous inquiétez pas. Arnaud, je vais avoir besoin de toi dans quelques instants. Fini Marie, et j'ai une petite question.
Ouais, je disais à Arnaud qu'il est assez irrationnel, ce garçon, et que moi, je réagis comme avec lui, c'est assez épidermique. J'ai l'impression qu'il est inexplicable. Et là, en ce moment, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il remonte la pente et qu'il va nous faire un beau Dauphiné. Mais je saurais pas vous dire plus de
ouais, les raisons pour lesquelles ça me
je
ressens
je
ça
crois chez lui. Que je vois, hein. Je suis comme Saint-Thomas, c'est-à-dire que c'est pour ça que je te donnerai rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, très bien, et on refera ce débat et puis on verra.
On va le faire d'ici le départ du Tour, t'inquiète.
Bien sûr. Arnaud, deux questions. Déjà, la communication de la Quick-Step Christophe l'a rappelé, avec Patrick Lefebvre qui n'a pas été tendre avec lui. Et puis là, on a l'impression qu'il nous l'annonce un petit peu en grande pompe, quoi. Vous allez voir ce que vous allez voir, le retour de Julien Lafilippe. Et la deuxième chose, c'est quoi ses ambitions, là, dans les trois prochains mois? Il veut gagner quoi cette saison, Julien Lafilippe?
Il aimerait bien gagner. D'ailleurs, Patrick Lefebvre nous l'avait dit. Tout la feuille sera remis à zéro, sera arraché et tout sera de nouveau beau entre les deux hommes si jamais il gagne des étapes sur Tour de France et qu'il devient champion du monde dans quelques mois. Après voilà, on n'en est pas là, mais c'est vrai que déjà une victoire sur le Dauphiné, c'est souvent significatif parce qu'on arrive quand même à un moment de la saison assez important. Le Dauphiné, on le dit peut-être pas assez, mais c'est une course vraiment qui est excessivement difficile. On est toujours en prise pendant 8 étapes. Il y a quasiment pas de place sur cette course, donc ça veut dire quand même quelque chose. Voilà, c'est un mini Tour de France. Ça veut dire quelque chose quand on gagne une étape sur le Critérium du Dauphiné. C'est l'une des 10-15 courses, on va dire, les plus importantes de la saison. Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez, une statistique assez intéressante avec Julien Alaphilippe. À chaque fois qu'il s'est imposé, justement, sur le Critérium du Dauphiné, qu'il a remporté des étapes, derrière, il nous a fait un super Tour de France. Que ça soit en 2017 où il avait remporté le maillot à poids, ou en 2019 où il avait été maillot jaune pendant deux semaines. Donc, voilà, c'est quand même assez important pour lui de se jauger dans cette course. Et puis, pour revenir à ta première question sur la communication, c'est vrai qu'on a l'impression que l'équipe, son équipe Soudal Quick-Step a voulu quelque part lui redonner un petit peu confiance. Voilà, lui dire: mon gars, on te fait confiance, on te met leader incontestable, incontesté, donc vas-y, maintenant fais le taf. C'est vrai que tu étais plutôt pour Remco Evenepoel sur a priori les classiques ardennaises, maintenant c'est plus le cas, donc vas-y, c'est à toi de jouer, c'est à toi de nous montrer ce que t'as dans le ventre.
Tu sais, Arnaud, tu nous as fait écouter un son tout à l'heure dans ton papier. Il y en a un autre, et je vais le paraphraser. Il a dit il y aura quelques enseignements à tirer d'ici la fin de la semaine. Et j'ai pas su comment interpréter cette phrase. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu piquant pour dire je pense que vous allez voir ce que vous allez voir, ou est-ce que c'est simplement très factuel? Il pense que à la fin de cette semaine, il aura quand même beaucoup plus d'infos sur comment il peut
sa forme et sur ses qualités pour espérer briller sur le Tour. Son objectif, évidemment, remporter une étape sur le Dauphiné, mais son grand objectif là, c'est de récupérer le maillot jaune pendant quelques jours sur le Tour, de remporter une étape au Pays Basque. C'est ça son objectif.
Okay.
Arnaud, juste avant et après Sarah. Tu voulais ajouter?
Non, mais effectivement, j'abonde dans le sens de Christophe. Pour moi, ça veut dire voilà, il faut vraiment tirer des gros enseignements de cette semaine. Et comme je vous le disais, je vais le répéter, mais parce que c'est important, c'est une course très difficile. Si on gagne ici, ça veut dire qu'on est en forme, ça veut dire qu'on est parmi les tout meilleurs du peloton. Donc il y a aucune raison de pas être performant derrière sur le France.
Ok, Sarah.
C'est vrai que c'est difficile pour un coureur cycliste. De se jauger à l'entraînement, c'est pas un sport où t'as un chronomètre et tu dis bon bah voilà, je suis dans les temps, ou en natation tu dis
quand même.
Mais tu ne fais que sur les sensations.
Oui, mais pas sur les sensations. Ils ont
des data
aujourd'hui,
sur la puissance et
ça,
tout.
Hein.
Oui, sur sa forme physique, mais sur le fait, c'est comment va-t-il gérer la compétition?
Ouais, ou au milieu des autres.
Il y a une forme d'inconnu en fait.
Oui.
Il y a une forme d'inconnu parce que il va réagir aussi par rapport aux autres équipes, aux autres attaques, là où il va se positionner. Donc, même
oui,
si lui
si
a de bonnes sensations.
Peut monter à tant de pulsations pendant tant de temps. Aujourd'hui, c'est scientifique, le vélo, hein. C'est pas comme avant. C'est pas uniquement une question de sensations. Tout est paramétré. Il connaît son.
Donc, en fait, quand il nous dit qu'il se sent bien, il sait jusqu'où il peut pousser son corps. Il sait jusqu'où il peut développer ses watts.
Il a des assurances.
D'accord.
Sarah, tu sais quoi? Je te propose de le croire. On va le croire et on en reparlera.
Ah très bien, la
semaine prochaine. Et on verra si on a eu raison. La semaine prochaine, mais dès aujourd'hui, avec cette première étape comptée par Arnaud Souk qui sera là en direct
sur
RMC. Chambon
sur le lac en Auvergne, magnifique région.
On fait Chambon sur lac, hein. C'est pas sur le lac. Hein.
Ah voilà, tu peux pas faire du pédalo.
Ah, mais c'est important.
Hein.
Chambon sur lac, jusqu'à Chambon sur lac.
Le lac Chambon.
Jamais compris.
Exactement.
Pourquoi
alors,
le
on
même.
Va passer. Ben parce qu'on va passer par le Mont d'Or, parce qu'on va passer par plein d'endroits qui sont parfaitement sympathiques. On sera pas loin de Saint-Nectaire, on sera pas loin de.
Oh là là, c'est une destination de nourriture que tu nous donnes là.
Juste à côté de chez nous aussi.
J'ai fait marcher l'économie locale ce matin là pour me préparer.
Ramène un peu de fromage, s'il te plaît.
Non, attends, ça va. Tu vas assez manger au Pays Basque comme ça, Christophe.
pour le Tour de France. Tu le connais bien, ton Christophe. Hein, ah tu as raison.
Ah oui, ça.
Là, il est plutôt en forme. On va essayer de le garder comme ça, voilà, pendant longtemps. 3 semaines. Merci Arnaud Souk d'avoir été avec nous.
Salut, les amis.
Et à tout à l'heure sur RMC. Ne manquez pas Grand Plateau, le podcast vélo que vous adorez. Ça sort tous les lundis.
Ça existe toujours, Practice, ça.
Exactement.
Il y a des nouveaux.
Le golf. On a fait un record d'audience sur le mois de mai. Ben oui. Et Grand Plateau, ce sera quoi le thème? Le Dauphiné?
Grand Plateau, le Dauphiné, évidemment. Le Dauphiné qui arrive, le plateau le Tour de incroyable France. Et le Tour de France qui se profile à l'horizon.
Ça Christophe sent bon, là. Messieurs, ça sent Pierre bon, là. Abiche et toute la team, ne manquez pas, ça sort tous les lundis. 11h23, on se retrouve dans quelques instants. Oh, j'en étais sûr. Saga Africa, bien sûr. Bravo à Corazaïs, notre réalisateur Saga Africa. Mais pourquoi cette chanson? Je comprends pas. Ah oui, Yannick Noah, dans quelques instants, 5 juin 1983. Le sacre de Yannick Noah, compté par Christophe Cessieux, c'était mieux avant. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h27, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Toujours avec ce matin, Sarah Pitkowski, avec Marie Martineau, Christophe Cessieux, dans une dizaine de minutes, 15 minutes précisément. Le 32-16, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord sur un thème du jour. On a évoqué le FC Nantes. Est-ce que c'est plus qu'un titre? Les Canaries qui se maintiennent en Ligue 1. On a parlé de Dupont et d'argent dans le rugby. On a évoqué les sifflets contre Lionel Messi. La Coupe du Monde féminine qui a du mal à se vendre en Nouvelle-Zélande en juillet prochain. Ou encore les Night Sessions avec la première Night Session féminine ce soir à Roland. Beaucoup de débats. N'hésitez pas à composer le 32-16. Mais pour l'heure, comme tous les dimanches, à 11h30, Christophe Cessieux nous compte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu. Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
C'est demain l'anniversaire. 5 juin 1983. Yannick Noah remporte Roland Garros.
En ce 5 juin 1983, alors que Laurent Fignon s'apprête à prendre le départ et à remporter son premier Tour de France, à l'heure où Alain Prost décroche Grand Prix sur Grand Prix en Formule 1, sur les cours de Roland-Garros, les spectateurs français n'ont Dieu que pour un jeune athlète de 23 ans qui dans quelques heures disputera la finale des internationaux de France. Oui, en ce milieu des années 80, la France sportive vit son âge d'or et ses champions font enfin vibrer un peuple trop longtemps frustré par des résultats décevant. Et c'est évidemment le cas en tennis, où depuis la fin de la guerre, seul un Français, Marcel Bernard, en 1946, a réussi à s'imposer sur la terre ocre de la Porte d'Auteuil. Alors, en cette belle journée de fin de printemps parisien, tout le monde se prend à rêver d'un succès de Yannick Noah. Noah, devenu en quelques années l'idole des foules, sa personnalité et son physique avenant, ils sont évidemment pour beaucoup, mais ce que les fans de tennis aiment le plus en Yannick, c'est son jeu spectaculaire, ses attaques tranchantes et sa rage de vaincre. Un garçon qui, s'il est le fils d'un ancien footballeur professionnel, n'avait que très peu de chances de devenir tennisman de haut niveau en grandissant à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays de Zachary, son papa footeux. Mais en 71, une rencontre va bouleverser sa vie. Yannick a 11 ans, il possède déjà un niveau remarquable, raquette en main. Et lorsque Arthur Ashe, le champion noir américain, vainqueur de l'US Open 3 ans plus tôt, débarque au Cameroun, c'est la révélation.
C'est là que j'ai vu Arthur Ashe. Sa tenue, elle était blanche. Et c'est quelque chose qui m'avait surpris. J'ai dit, waouh, un black avec une tenue bien blanche. De la seconde où je l'ai vu, c'est devenu mon héros, quoi. Depuis un jour, il y avait des affiches oranges, et que c'était Arthur Ashe qui venait en tournée africaine. J'arrivais pas à le croire. C'est pas possible qu'il vienne dans notre petit club pourri.
Et le rêve ne va pas s'arrêter là, non. Yannick va même avoir l'occasion d'échanger quelques balles avec son héros. Zachary Noah raconte la suite dans le documentaire Noah, le sens de la gagne de Delphine Jodot et Vladimir de Fontenay, diffusé sur Amazon Prime.
Arthur Ashe, bien sûr, la couleur aidant, a voulu jouer avec le petit nègre qui était là à côté. Yannick qui était déjà excité, je montrais à Arthur Ashe ce que je vaux. Il était déjà gonflé, lui. Il voulait battre tout le monde.
Et en seulement quelques balles, le jeune franco-camerounais épate le champion, au point que celui-ci décide de lui offrir sa raquette avant de prendre son téléphone et d'appeler la Fédération française de tennis.
So I called the French tennis officials and said,
j'ai appelé la Fédération française et j'ai dit Yannick a du talent, mais il faut qu'il quitte le Cameroun.
Champion américain, la Fédération française de tennis invite Noah
à venir se perfectionner en France. 1973, il a 14 ans, Yannick Noah entre à la section sport-études de Nice, que dirige Patrice Bost.
Le rêve de Noah prend forme sur les cours du Parc Impérial à Nice, où il intègre l'internat du sport-études. Début compliqué pour l'adolescent, arraché à sa famille et surnommé Bamboula par ses camarades.
Mes parents étaient loin, je voyais pas ma mère ni mon père. J'avais aucun lien, aucune protection à ce niveau-là. J'ai chialé tout le temps. Je chialais en réveillant, je chialais en m'endormant, je chialais dans la nuit. On te fout à poil devant tout le monde. T'es humilié, quoi. Mais tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu es trop petit.
Alors, pour oublier brimades et racisme ordinaire, Yannick met les bouchées doubles et s'entraîne plus que les autres. Un entraînement forcené qui va vite porter ses fruits. 3 ans après son arrivée en France, il est déjà l'un des plus grands espoirs du tennis français, même si les journalistes de l'époque n'ont pas encore bien retenu le prénom du prodige.
Morphologie longiligne, geste élégant et précis, souplesse féline, c'est Patrick Noah, 15 ans, le classé le plus jeune de France, à l'un des grades les plus élevés de deuxième série.
Patrick, Yannick, après tout, qu'importe le prénom, l'ambition, elle, est claire et nette.
Gagner des matchs, être une idole, c'est pas négligeable. Enfin, gagner de l'argent, gagner bien sa vie, et puis arriver à mon but, quoi. C'est-à-dire être au moins dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux.
Noah rêve au futur, à ce central de Roland-Garros, où un jour peut-être, devant des milliers de spectateurs, il gagnera la balle de match de la finale.
Le tournoi parisien que Yannick découvre pour la première fois en 1977 et dont il disputera les 13 éditions suivantes à la file. Mais avant de briller sur la terre battue, c'est à Wimbledon que Yannick connaît son premier grand frisson de jeune professionnel en 1978, lorsqu'Arthur Ashe décide de faire de Noah son partenaire de double, 7 ans seulement après l'avoir découvert sur les cours d'un petit club de Yaoundé.
Centrale et je me mets à trembler. Et puis je demande à Arthur, Arthur, is possible not play? I too nervous. Et puis il tape sur les poings comme ça, it's gonna be alright, son, it's gonna be okay. Et quand on gagne, je m'approche de lui comme ça, je vais pour l'embrasser. Je sais pas, moi, franchement, tout aurait pu s'arrêter à ce moment-là, c'était bon quoi.
Mais ça ne va pas s'arrêter de sitôt, car Yannick progresse, remporte ses premiers titres et commence à faire vibrer le central parisien en 1980. À 20 ans, il atteint les 8e de finale du tournoi, opposé à l'américain Jimmy Connors.
8e de finale au meilleur des 5 manches. Jimmy Connors, États-Unis. Yannick Noah, France.
Le central frémit, mais déchante 2 sets plus tard lorsque Yannick se blesse et doit abandonner.
Il est placé sur du bal, il revient bien. Là encore, il retourne comme il peut, il va chercher cette balle qui est trop loin.
L'année suivante, il franchit un tour supplémentaire après avoir battu en 8e de finale l'Argentin Guillermo Vilas, ancien vainqueur du tournoi parisien.
Jeu 7 et match, Yannick Noah exulte. Il remporte ici la plus belle partie de sa jeune carrière aux dépens de l'Argentin Guillermo Vilas, numéro 6 mondial.
S'il est battu au tour suivant par Victor Pecci, Noah est entré dans les cœurs des Français. Tout le monde désormais adore ce showman, beau comme un dieu et plein aux as, qui fait tourner la tête de ses admiratrices et des jeunes joueurs français, dont Guy Forget.
Il fréquente des très jolies jeunes filles, mannequins, il a toujours le dernier petit blouson qui va bien, il est complètement dans la tendance, donc c'est presque pour nous une rockstar.
En 1982, la star du tennis français entre pour la première fois dans le top 10 mondial et atteint à nouveau les quarts de finale à Roland-Garros avant de disputer la finale de la Coupe Davis face aux États-Unis de John McEnroe et d'Arthur Ashe, oui, le capitaine américain qui pour la première fois se retrouve dans le camp d'en face. Un crève-cœur pour Yannick.
Moi j'étais sur McEnroe, mais j'étais pas du tout sur Arthur Ashe quoi. Et là il était capitaine quoi, ça m'a brisé le cœur. Arthur c'est moi quoi. Dans l'esprit du cosmos, Arthur il me coach, il coach pas McEnroe.
Les États-Unis s'imposeront 4-1, mais les Français de Noah ce jour-là prennent date pour plus tard. Yannick approche désormais des 23 ans. Il n'a jamais joué aussi bien, mais il lui manque encore ce succès de référence. Alors, pour obtenir le Graal et une victoire à Roland-Garros que la France attend depuis 37 ans, Noah part s'entraîner avec Patrice Agelauer, son coach.
Je lui ai dit, écoute Yann, tu veux gagner Roland?
C'est tous les jours, bosser, que ce soit sur le physique, sur les étirements, c'est vraiment, vraiment faire ça. On s'est isolé de tout. On allait s'entraîner dans un petit club où personne ne savait qu'on était là. Et on a pu bosser tous les jours à fond. Là, il fallait plutôt le freiner que de l'encourager à faire des efforts.
Le 23 mai, sur le central, Yannick entame son tournoi, sûr de lui, de ses forces et de son mental. Les quatre premiers tours sont une formalité pour l'ouragan Noah, qui ne laisse pas un seul set à ses adversaires. Mais en quart, l'affaire va forcément se corser. Lorsqu'il croise la route du numéro 2 mondial, le tchèque Ivan Lendl, le Buster Keaton des cours, aussi triste et détesté que Noah est joyeux et adulé.
Lendl, c'était personnel. Lui, c'était droit, sérieux, très professionnel. Et moi, j'avais pas envie d'être ce mec-là. Quand je perdais contre lui, j'avais des boules. Parce que c'était pas juste moi, c'était tout ce que je représentais, tu vois.
Noah entame le match tambour battant, remporte les deux premiers sets et s'octroie même deux balles de match avant de voir son adversaire revenir dans la partie. Mais le doute ne durera pas bien longtemps. Dans le quatrième set, Noah retrouve jeu et confiance et expédie Lendl 6-0. Le voici en demi-finale.
7-6, 6-2, 5-7, 6-0, le compte est bon, Noah est heureux, nous aussi. Il rencontrera vendredi en demi-finale Roger Vasselin. Il faut remonter à 1946 pour voir deux Français en demi-finale de Roland-Garros. Champagne pour le tennis français.
Et malgré l'amitié qui le lie à son compatriote, Yannick va se montrer intraitable, ne lui laissant que trois malheureux petits jeux. Pour la première et dernière fois de sa carrière, il est en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Mais ce dimanche, sur un central, tout est moustillé, c'est du sérieux qui attend Noah. L'école suédoise, représentée par celui qui a succédé à Björn Borg. Il est le vainqueur sortant de Roland-Garros et par là même, le favori de cette finale, son nom, Mats Wilander. Mais de cela, Noah n'en a cure, le Français est en mission, ce match ne peut lui échapper.
Mon sentiment, c'est que je ne sors pas vivant si je gagne pas. Je peux crever. Butez-moi ou je me suicide. Et je gagne ce putain de match.
Jouer les premières manches, Noah, en 36 minutes sur le score de 6 jeux à 2. Un Noah qui joue remarquablement. Anthony qui a la volée. Et alors, si je partout, tie break. Son père, Zachary Noah, s'est précipité sur le central pour embrasser son fils. Moment d'intense émotion, moment fantastique, le rêve de Noah réalisé. L'ovation de tout un stade. Le salut aux amis maintenant. En larmes dans la tribune présidentielle.
J'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner. Et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.
Un espoir resté sans lendemain, Yannick ne connaîtra plus jamais la liesse d'une finale sur le central et seul son copain Henri Lecomte parviendra à atteindre ce stade de la compétition 5 ans plus tard face au même adversaire mais pas avec le même résultat. Depuis, la France patiente, en rage, rêve, se désespère mais n'a toujours pas trouvé de successeur au beau gosse de Yaoundé, fabricant exclusif d'émotions, sorcier du sourire et de la victoire. Tu es venu ce matin, le Noah.
de fer africain. C'était il y a 40 ans, le sacre de Yannick Noah raconté par Christophe Cessieux. Qu'avez-vous envie de retenir de cette histoire mémorable, évidemment. On s'en souvient, même s'il y a quelques anecdotes qui nous avaient peut-être échappé. Marie Martineau.
Alors moi, je suis née en 84 et je peux le dire, je n'ai pas grandi dans une famille très tournée vers le sport, de base. On parlait du boulot, mais pas trop du sport. Et pourtant, ce mec-là fait partie de ma jeunesse, de mon enfance. Après cette victoire-là à Roland-Garros, je reste très admirative du parcours, du bonhomme. J'aime son franc-parler, évidemment. Son naturel, comme ça. Je trouve qu'il fait du bien, il est inspirant ce mec là, voilà. Et donc j'aime la destinée et je pense qu'il fait partie peut-être que, quand je serai vraiment vieille, tu vois, et si on me dit si tu devais citer 10 personnes qui t'ont marqué dans ta vie, je pense que Yannick Noah ferait partie de ces 10 personnes.
Ok.
Il a été longtemps la personnalité préférée des Français. Hein.
Pas très étonnant, je trouve. Ouais.
Et après il y a eu Jean-Jacques Goldman et là c'était foutu.
Non mais Jean-Jacques Goldman a écrit les chansons pour Yannick Noah d'ailleurs. Moi, je la connais par cœur, cette histoire. Pas parce que je l'ai vécue, mais parce qu'elle m'a été racontée plein de fois. J'ai juste une petite anecdote que tu ne peux pas connaître, forcément. C'est que moi, j'ai eu la chance de l'avoir en tant que capitaine de Fed Cup. Et il me désigne pour jouer le simple, alors que j'étais simple remplaçante, puisque Marie Pierce avait refusé la sélection. Et quand il m'annonce que je vais jouer, je dis, ah bah non, c'était pas prévu, puis je m'en vais. Je dis, non, tu m'avais juste appelé pour être remplaçante, j'ai pas prévu de jouer demain, je vais pas y aller. Et donc je lui dis, mais je vais pas pouvoir y aller. Et il me raconte une anecdote sur ce match-là, il me dit, tu sais, le jour de ma finale, je l'avais perdu. Dans la nuit, il l'a joué le match.
Il l'a raconté,
perdu le match, et quand il s'est levé, je l'ai perdu une fois. T'as perdu pas deux fois. Et en fait, c'est
il t'a marabouté au final.
Non, mais en tout cas, il m'a montré que la force mentale pouvait faire inverser les choses, en fait. Et il a souvent raconté ça, et ça m'a aidé effectivement à rentrer sur le court. J'ai eu la chance de l'avoir en tant que capitaine de Fed Cup pour jouer les deux simples.
Il est connu pour ça aussi, Yannick Noah.
Il a fait des miracles en Coupe Davis et en Fed Cup parce que il a réussi à transcender des joueurs qui étaient sur le circuit, mais pas des joueurs qui gagnaient des tournois du Grand Chelem. Et pourtant, avec eux, les équipes de France ont gagné.
C'est pas juste quelque chose comme ça jeté en l'air, toi qui l'as côtoyé, coaché. Tu sens la puissance d'un homme, quelque chose de différent.
Il a quelque chose de mystique. Il dégage quelque chose de mystique. Donc, en fait, quand il t'embarque dans ses inspirations mystiques, tu suis parce que c'est un leader, parce que c'est un manager, parce que lui a gagné.
Le temps lui a gagné. Donc,
quand tu passes un moment avec ce type-là, tu es fasciné par le mec, parce que sa façon de raconter les histoires, il dégage de la sympathie. T'as envie d'être copain avec lui, boire des coups avec lui. Et d'ailleurs, tu peux en boire des coups avec lui.
Oui, il faut tenir.
Il faut tenir là. Mais franchement, ce mec-là, t'es face à lui, t'as la banane.
Il a inspiré. Le PSG est allé le chercher aussi pour essayer de motiver ses équipes pour on disait quoi, la C4 à l'époque, C3.
Non, c'était la C2,
la Coupe des Coupes.
Donc il a ce pouvoir de transcender les gens, de transcender les sportifs. Il a ce pouvoir-là.
J'ai l'impression que depuis tout à l'heure vous parlez de moi. C'est quand même assez incroyable. Alors, on parle de
mais pas loin.
T'es vraiment sympa.
Oui, juste que tu fasses une carrière dans la chanson derrière, mais autrement c'est un peu ça.
Oh, ça peut se décider.
Dans la blague, tu peux. Hein.
Ouais. Sarah, évidemment, on passe la journée ensemble. Je te rappelle qu'on est tout à l'heure ensemble dans Bartoli Time. On en reparlera ou on débriefera le week-end. Bravo Yannick Noah et bravo Christophe Cessieux. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous nous appelez. Voilà, vous avez envie de vous confronter avec une GG, c'est maintenant. Pas tout à l'heure, maintenant, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h48, de retour dans les grandes gueules du sport, c'est la dernière ligne droite avec les GG, Christophe Cessieux, Marie Martineau, Sarah Pitkowski à partir de midi. Restez bien avec nous, les Paris RMC, toute la Dream Team, on parlera notamment de Roland Garros. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport. Et vous ?
Aliou est avec nous, il a composé le 32-16. Salut Aliou.
Salut les grandes gueules du sport.
Salut.
Alors tu vas affronter qui ce matin ? Pourquoi tu nous appelles ?
Bah moi je vous appelle parce que j'étais pas du tout d'accord avec vous sur le match de la Night Session ce soir. Beaucoup d'entre vous étaient réticents en disant que voilà, c'était pas la bonne programmation. D'ailleurs j'aurais voulu avoir Walid qui disait qu'en fait on l'a floué parce qu'on lui a dit le meilleur match aujourd'hui et on lui a pas vendu le meilleur match. Moi, j'y serai ce soir à la Night Session. Je suis très content. J'avais pris mes billets en avance et lorsque j'ai vu qu'en huitième de finale, on aura et potentiellement Sabalenka contre Stephens, j'ai prié Dieu pour que ce match-là soit en Night Session parce que tout simplement, on a la meilleure affiche. On a deux vainqueurs de Grand Chelem, Sabalenka qui vient de s'imposer à Melbourne et on a Stephens qui a gagné en 2017 à l'US Open. Qui plus est, Sloane Stephens, faut pas oublier, elle joue aussi la finale à Roland Garros. Il y a quelques ans, elle avait joué une finale à Roland Garros qu'elle avait perdue. On a la meilleure affiche tout simplement. Et ces deux-là, elles sont affrontées trois fois. À chaque fois, ça a fait trois sets. Moi, je regrette dans ce débat-là qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la parole, qui ne regardent ni le tennis féminin en l'occurrence, qui s'expriment uniquement quand c'est Roland Garros. Et d'un coup, on a des spécialistes de tout. Alors que non, désolé. Avant-hier, on nous a vendu que Shapovalov contre Alcaraz, ça allait être un match de fou. Mais désolé, moi, je me suis ennuyé devant ce match. Alcaraz, il a bouffé tout cru Shapovalov. Certes, on a deux grands noms, mais il n'y avait pas de match. Et donc, du coup, voilà. Moi, je pense que ce soir, on va se régaler. On va avoir un énorme match. Je salue le courage d'Amélie Mauresmo et de la direction qui ont eu le courage de ne pas céder aux sirènes, entre guillemets, vraiment, mais je mets tous les guillemets du monde, des fans de tennis et ils nous ont mis une affiche de ce match-là et je suis très content.
Alors là, franchement, moi j'applaudis.
Ouais,
tu as été bon excellent, hein. Excellent. Non, mais très très bon. Tu bosses peut-être à la Fédé Tennis, mais tu as été excellent.
Ouais, j'allais dire, t'as des parts, ou
non, bravo à Liu. Non, mais vraiment une très bonne grande gueule. Il vous interpelle. Les copains, faut suivre un peu plus le tennis parce que c'est une super affiche. Vous répondez quoi?
Je sais pas, Sarah, c'est vrai qu'elle connaît rien au tennis, qu'elle parle une fois par an du tennis.
Non, mais vous lui répondez quoi? Parce que
chacun ses goûts. Je comprends qu'il ait envie de voir ce match. Moi, personnellement, je préfère regarder le Alcaraz Musetti cet après-midi sur le central. Voilà.
Ok. Oui, mais c'est ce qu'on disait en fait. C'est la difficulté du tennis, c'est qu'on achète une place et on ne sait pas ce qu'on va voir. Donc, il y a des gens qui vont être ravis. Il y en a qui vont être curieux parce qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Puis il y en a d'autres qui vont se réduire à juste oui, enfin bon, c'est un match de femmes donc ça va jouer en 3-7, oui bah je connais pas les filles donc ça m'intéresse pas, je revends ma place. C'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas quand on a des passionnés oui. Comme Walid, c'est super,
comme Aliou aussi
exactement comme Aliou, ils vont se régaler. Et tu as raison de le dire, effectivement Sabalenka aujourd'hui c'est peut-être la future numéro 1 mondiale, et Sloane Stephens elle a fait finale contre Simona Halep, c'était en 2018 et elle s'était défendue. Il y avait eu une grosse finale en 3-7. Après, c'est pas une question de courage, c'est que je pense que la directrice du tournoi et l'organisation du tournoi essaient de mettre le match qui va avoir le plus d'enjeux et dans lequel il va y avoir le plus de suspense.
Ils ont parié sur cette rencontre.
Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas eu lundi ou mardi ou mercredi.
Le Musetti Alcaraz, il fait frémir personne là.
Ah bah bien sûr que si. Mais tu peux, c'était aussi sur un dimanche, donc le dimanche après-midi, ouais. Tu regardes aussi du tennis à la télé, donc il faut équilibrer tout ça.
Okay.
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc il y en a pour tout le monde.
Aliou, merci, tu as été formidable et bravo d'avoir défendu cette affiche ce soir, et bon match. J'espère que pour toi, ce sera un match extrêmement serré.
Et tu es pour Sabalenka ou Stephens du coup?
Je suis pour le beau jeu, je veux juste me régaler 3 sets et les filles, faites-moi rêver, point.
Ah, bravo, merci beaucoup Aliou d'avoir été avec nous. Stéphane nous appelle au 32-16. Salut Stéphane.
Allô.
Oui Stéphane, on t'écoute. Tu veux affronter qui ce matin?
En fait, j'appelais, moi, c'était par rapport au débat de ce matin.
Lequel?
De Messi.
Lionel Messi sifflé, est-ce que c'est logique ou pathétique?
Voilà. En fait, moi, je pense que c'est plutôt logique. J'ai 46 ans, je suis un amoureux fou du PSG depuis l'âge de 10 ans. Et quand je vois comment se comportent Messi, Neymar, entre autres, alors bien sûr c'est pas totalement de leur faute parce que le Qatar leur donne tout comme ça, mais nous ça représente pas mon club que j'ai aimé. Et moi, je suis content qu'il s'en aille, au final.
Non, mais d'accord, voilà. Stéphane, ok, mais est-ce que tu trouves pas que c'est quand même un peu violent d'aller siffler Lionel Messi le dernier jour pour ses adieux qui arrivent sur la pelouse, je l'ai dit tout à l'heure, avec ses enfants? Est-ce qu'on pouvait pas faire ça un peu mieux? Et ça ne voulait pas dire non plus qu'il avait super bien traité le Paris Saint-Germain, tu vois, mais...
Honnêtement, j'étais pas au parc hier soir, je l'aurais pas sifflé. Parce que devant ses enfants ou quoi que ce soit, je l'aurais jamais sifflé. Par contre, de lui faire une fête ou quoi que ce soit, alors que lui, il a jamais été capable.
Oui, non, on n'est pas là. On n'aurait pas poussé le.
Ou
on
quoi
pas
que
là.
Ce soit. Moi, voilà, je vous dis honnêtement, je suis content qu'il s'en aille.
Et ben voilà, c'est dit de la part de Stéphane.
Voilà,
merci.
Voilà. Et par contre, je voulais dire, ce matin, j'ai entendu, parce que je vous écoute tous les jours.
Ah.
Et j'adore RMC, honnêtement. Je suis fan de foot, je suis éducateur sportif, je suis responsable technique d'un club. Voilà. Mais par contre, de dire que Paris est un petit club de merde, ça, je trouve alors, que c'est petit.
Qui a dit ça?
Alors Stéphane, alors c'est non mais si, bien sûr, c'était ce matin. Oh bah bien sûr, quelqu'un l'a dit. Je sais qui c'est Christophe Sécheux. Alors il faut savoir que il faut savoir que Christophe s'emballe et que c'est de bonne guerre et les supporters de Nice n'y voient pas ombrage. Ne t'inquiète pas.
Moi j'aurais jamais. Si Messi était venu à l'OGC Nice, je l'aurais jamais sifflé. Tu vois. Je pense que je connaîtrais jamais ce bonheur là.
Il y a pas de souci, mais sachez que moi je suis, j'habite pas Paris. Moi je suis d'Isère, d'accord. Je suis amoureux de, parce qu'en fait, à l'époque, mon père jouait au rugby, il regardait Stade 2.
Ben voilà.
Et il y avait Tapetuzic, Taleb et compagnie. Ensuite, j'ai grandi avec l'épopée de Georges Weah, Valdo, Rai. Ça, c'est des gens qui m'ont donné des émotions. Guérin, Le Guen, tous ces gens-là, Lama. Moi, ils m'ont fait rêver. Aujourd'hui, je ne me représente plus dans ce club. Parce qu'en fait, il n'y a que c'est une vitrine avec des grands noms. Et qui en ont rien à taper de notre club.
Une coquille vide, on a bien compris en tout cas le sens de ce témoignage. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Merci mes GG, Christophe Sessieux, Sarah Pitkowski, Marie Martino, Sarah. On se retrouve ce soir à partir de 19h dans Bartoli Time. On débriefera la journée de Roland avec notamment Alcaraz, évidemment. Et puis Pierre Aristoui, l'entraîneur de Nantes, sera notre invité également exceptionnel pour revenir sur le maintien des Canaries. Merci à Alban Esaïs à la réalisation et merci à Pierre Amiche. À la production. On vous embrasse, passez une très belle journée. Tout de suite, les paris RMC.